Il est 19h. Le journal vous est présenté par Pierre Veil. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe Collin, bonsoir à tous. Le début des épreuves du bac demain avec des menaces de grève, les dernières révisions, reportage dans un instant avec une lycéenne en Franche-Comté. Des récoltes détruites et l'état de catastrophe naturelle décrété par le gouvernement après les violents orages qui ont touché 9 départements du Sud-Est. Les dirigeants du Rassemblement national préparent les municipales lors d'une réunion à La Rochelle. Marine Le Pen se dit prête à discuter avec des militants, les Républicains, et avec tous ceux qui contestent la politique d'Emmanuel Macron. À Hong Kong, une nouvelle fois, une immense marée humaine, des centaines de milliers de protestataires dans les rues pour défendre les libertés face à la Chine. Une panne d'électricité totale en Argentine et en Uruguay après un dysfonctionnement dans une centrale électrique. Le rétablissement du courant est en cours. Après ce journal, Intersport, Vincent Pellegrini, au sommaire entre autres, la Coupe du monde féminine de football à 24 heures de la rencontre France-Nigeria, la fête à Toulouse après la victoire dans la finale du top 14 de rugby et puis Fernando Alonso sur Toyota, vainqueur des 24 heures du Mans.
France Inter.
Le bac 2019, coup d'envoi demain matin, 743 000 candidats dans plus de 4 600 centres d'examen, comme d'habitude en ouverture. La philosophie des examens qui pourraient être perturbés par des grèves de surveillance menées par des enseignants opposés à la refonte du bac annoncée pour 2021, réforme qui réduira le nombre d'épreuves finales au profit du contrôle continu. En tout cas, de nombreux lycéens peaufinent actuellement leur révision à quelques heures de l'épreuve. Christophe Beck est allé à la rencontre de Louise à Mathay, dans le pays de Montbéliard. Elle passe le bac demain. Elle est bien entourée.
Louise, tout juste 18 ans, ancienne Miss 15-17, révise studieusement dans le jardin familial à Mathay, dans le pays de Montbéliard.
J'essaie de me préparer mentalement, mais bon, déjà je pense que c'est important de bien réviser pour sentir au mieux et se sentir prêt.
Son apparente sérénité est mise en doute par sa maman, Caroline, qui nous parle d'une Louise plutôt stressée.
Un peu, beaucoup.
Elle se stresse tout seule, elle n'a même pas besoin des parents.
Je vais avoir besoin d'être entourée dans tous les cas. Je pense que c'est important. Et puis, je ferai tout pour avoir les meilleurs résultats.
Pour apaiser notre candidate, la maman a consenti à une séance de relaxation.
Fais sa ligne de stress, ressent, dynamise, clarifie les pensées. Pas mal ça.
Je fais donc de la réflexologie plantaire et puis un massage indien aussi. J'ai testé pour essayer de faire évacuer le stress, de me sentir bien.
Et Louise en a tiré profit, semble-t-il.
Je pense aussi que ça permet de penser à autre chose, d'être tranquille un peu. Et puis,
ses matières fétiches sont
philo et puis SVT.
Caroline, la maman, y croit, malgré les apparences.
Oui. Je croise les doigts pour elle. Ouais, c'est son enjeu pro un peu quelque part aussi, quoi. C'est la suite, ouais.
Pour la suite, Louise est inscrite dans une école de sage-femme à Namur, en Belgique.
Reportage Christophe Beck de France Bleu, Belfort-Montbéliard. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, annonce que l'état de catastrophe naturelle sera déclaré d'ici quelques jours, au lendemain des intempéries qui ont frappé 9 départements du Sud-Est. Le préfet de la Drôme évoque un épisode météo particulièrement intense, d'un peu moins de 15 minutes, mais d'une violence inouïe. Des grêlons de la taille de balles de ping-pong ont par exemple détruit 10 000 mètres carrés de toiture dans la région de Romans-sur-Isère, dans le nord de la Drôme. La Drôme où s'est rendu Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a constaté les dégâts et a rencontré des agriculteurs qui ont perdu toute leur production. Visite suivie par Sonia Gobry de France Bleu Drôme-Ardèche.
La visite a eu lieu sur l'exploitation de Johan Gonard.
Regardez, en 10 minutes, j'ai perdu la totalité de ma récolte arboricole et viticole. Moi, j'ai fait mon compte déjà. En grosso modo, il va me manquer 150 000 euros, malgré les indemnités grêles.
En complément, l'État va déclencher les aides habituelles, avec notamment des exonérations de charges. Mais Mélusine, une arboricultrice, est venue demander au ministre des aides supplémentaires pour ceux qui, comme elle, ne sont pas assurés contre les risques de grêle.
C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir s'assurer. Et donc, il faut avoir la trésorerie qui permette de prendre ce type d'assurance. Donc, en clair, n'étant pas assuré pour ce risque-là, pour notre exploitation, ça veut dire aucune indemnité a priori.
Message entendu par Didier Guillaume. Le ministre promet de rendre cette assurance obligatoire et surtout moins chère.
C'est pour ça que j'ai dit qu'en arboriculture, l'assurance récolte, c'est de l'arnaque. J'ai été sifflé et hué quand j'ai dit ça. Quand je dis qu'il faut une assurance obligatoire qui soit accessible à tous, je veux bien qu'on fasse jouer le libéralisme et le marché, mais moi j'en ai marre qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent sur le dos des paysans. Donc aujourd'hui, ça pour moi, c'est fini.
Autre problématique exposée au ministre, celle des saisonniers. Michael a dû expliquer aux siens qu'il n'avait plus de travail pour eux.
Seulement sur mon exploitation, c'est 55 salariés
qui devaient embaucher là d'ici demain et un mois, bah, ceux-là ne récolteront pas, ça c'est certain.
Didier Guillaume propose du chômage partiel pour les saisonniers. La Drôme est le département qui en emploie le plus.
Reportage Sonia Gobry. La FNSEA, de son côté, réclame des avances de trésorerie pour les agriculteurs pour éviter qu'ils mettent la clé sous la porte. Après sa victoire aux européennes, le Rassemblement national a réuni aujourd'hui à La Rochelle son conseil national pour préparer la bataille des municipales l'an prochain, avec bien sûr en ligne de mire les alliances éventuelles, notamment avec les Républicains déboussolés par leur échec au scrutin européen. À La Rochelle, Julie-Marie Lecomte.
Des municipales, Marine Le Pen dit qu'elles sont une première marche vers la présidentielle, la première étape d'une séquence qui verra son parti gagner des villes, puis des départements, puis des régions. Autant de laboratoires pour ancrer l'image d'un parti de gouvernement avant 2022. Le Rassemblement National présentera donc des listes dans toutes les villes de plus de 20 000 habitants, affirme sa présidente.
Aucun territoire ne sera laissé de côté. Aucun. C'est-à-dire que nous aurons des candidatures partout en France.
À moins d'avoir la tête de liste, il n'y aura pas d'alliance avant le premier tour. Ce serait, selon le Rassemblement National, se mettre sous tutelle. Pour l'instant, ce sont donc des listes complètes qui sont en train d'être constituées.
Avant de mener des discussions d'alliance, il faut d'abord monter des listes. Il faut être présent pour pouvoir s'allier. Donc ceux qui comptent sur notre esprit d'ouverture en imaginant qu'ils n'auront pas de liste Rassemblement National, je les détrompe tout de suite.
Pas d'alliance avec les appareils, Marine Le Pen lance en revanche un appel.
Un appel vibrant de La Rochelle à tous ceux qui, chez LR, n'ont pas envie d'être embrigadés dans l'armée d'Emmanuel Macron. Nous leur disons que nous sommes prêts à discuter avec eux. Nous sommes prêts à mettre en œuvre des plateformes d'action communes.
Appel lancé d'ailleurs en fait non seulement à droite mais aussi à gauche. Objectif constituer en 3 ans une grande force d'alternance pour battre Emmanuel Macron à la prochaine présidentielle.
Récit de Julie-Marie Lecomte lors de cette réunion à La Rochelle. Jordan Bardella, qui a conduit la liste du Rassemblement National aux élections européenne, a été promu deuxième vice-président de son parti. Il a 23 ans. Le gouvernement veut économiser 1 milliard d'euros dès l'an prochain via la suppression de niches fiscales. Cela s'ajoutera aux 4 milliards d'économies prévues sur les dépenses publiques. Précision aujourd'hui du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, sur LCI. Ces mesures doivent permettre de financer la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu annoncée fin avril par Emmanuel Macron.
Le journal de 19h. Sur France Inter.
À l'étranger, des centaines de milliers de manifestants vêtus de noir, près de 2 millions selon les organisateurs, ont défilé à nouveau à Hong Kong pour réclamer le retrait pur et simple du projet de loi sur l'extradition vers la Chine. La chef de l'ancienne colonie britannique a suspendu ce texte et a même présenté des excuses pour avoir provoqué ce conflit. Malgré le recul gouvernemental, la foule ne décolère pas. En fait, le mouvement dépasse la question des extraditions et exprime un ressentiment beaucoup plus large contre le gouvernement et contre Pékin, accusé de renier depuis des années les libertés de ce territoire, Hong Kong, territoire semi-autonome, rattaché à la Chine en 1997. Voici le témoignage d'un manifestant recueilli par notre envoyé spécial à Hong Kong, Dominique André. Il s'appelle Harry, il a 58 ans, il est patron d'une société de haute technologie.
On manifeste aujourd'hui contre le projet de loi sur les extraditions, même si le gouvernement a décidé de le suspendre. Nous voulons aussi que Carrie Lam, la chef du gouvernement, démissionne, car le peuple de Hong Kong veut pouvoir choisir son dirigeant. Nous savons que c'est improbable, mais au moins on fait entendre notre voix. Nous ne savons pas si nous aurons toujours la possibilité de faire entendre notre avis, alors on veut exercer notre droit à la liberté tant qu'on l'a encore. Vous avez vu que la police s'est montrée brutale mercredi. Ils ont qualifié les manifestants d'émeutiers. Les policiers ont tiré des balles en caoutchouc en visant la tête des manifestants. À la conférence de presse hier, Carrie Lam a clairement dissimulé la vérité. Elle a donné sa version des faits sur ce qui s'est passé. Elle a dit que ce qu'ils avaient fait, c'était la chose à faire. Nous voulons qu'elle parte et on ne peut pas continuer avec ces entraves à nos libertés.
Et sur franceinter.fr, reportage complet avec des images de ces manifestations monstres à Hong Kong. Deux pays d'Amérique latine plongés dans le noir. Une panne inédite et massive prive l'Argentine et l'Uruguay d'électricité depuis plusieurs heures. L'alimentation est en cours de rétablissement à Buenos Aires. Bien sûr, on cherche les causes de cette panne géante. Les compagnies électriques d'Argentine et d'Uruguay ont signalé une défaillance massive d'un système d'interconnexion près d'un barrage qui fournit du courant aux deux pays. À Buenos Aires, Jean-Louis Buchet.
À Buenos Aires, l'électricité revient progressivement, quartier par quartier. Là où je me trouve, en plein centre-ville, à proximité de l'obélisque, le courant a été rétabli à midi. Cela avait été également le cas dans plusieurs provinces de l'ouest du pays en fin de matinée. Selon les autorités, c'est à 7h07 que la panne s'est produite. Elle a affecté l'Argentine et l'Uruguay, dont les systèmes électriques sont interconnectés, mais aussi une partie du Paraguay, quelques villes au Chili et le sud du Brésil. L'origine de la défaillance n'est pas encore connue. S'agissant d'un dimanche matin pluvieux sur une grande partie du territoire, l'impact de la panne a été limité pour la majorité des Argentins qui ont pris leur mal en patience après s'être réveillés sans électricité. Beaucoup de commerces et certains immeubles ont mis en marche leurs générateurs en attendant que le courant soit rétabli. L'Argentine n'avait jamais connu une panne d'une telle ampleur. Jean-Louis Buchet, Buenos Aires, RFI pour France Inter.
Le président déchu du Soudan, Omar El-Béchir, a été conduit depuis sa prison vers les bureaux des magistrats en charge des affaires de corruption à Khartoum. C'est la première fois qu'on le voit en public depuis sa destitution en avril. Le ministère public promet qu'il sera rapidement jugé pour corruption. Les forces franco-maliennes ont tué 20 djihadistes dans une opération menée dans l'est du Mali, une zone où opèrent des combattants affiliés au groupe État islamique, non loin de la frontière nigérienne. Des soldats français, je vous le rappelle, interviennent au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane menée depuis 2014 pour lutter contre les groupes armés djihadistes. La dernière page de ce journal, retour en France avec les plus grands voiliers du monde. La grande parade de l'Armada, magnifique spectacle dans les boucles de la Seine. 50 bateaux qui descendent le fleuve de Rouen à Honfleur. Après 10 jours de fête sur les quais de Rouen, des centaines de milliers de spectateurs ont fait le déplacement pour assister à cette grande parade. C'est l'Hermione qui est en fin de cortège, prestigieuse frégate française, présente pour la toute première fois. Il y avait énormément de monde amassé sur le quai pour la voir. Sixtine List, France Bleu Normandie-Rouen, au milieu des spectateurs.
Des milliers de visiteurs se pressent et malgré une minerve et un bras en écharpe, Marie-Thérèse n'aurait manqué ça pour rien au monde.
Mon médecin saurait que je suis là, je me ferais houspiller. Hein. Mais je voulais le voir. J'ai pas eu la chance de le voir arriver, donc je veux le voir partir.
Et pour voir le départ, Annick doit presque jouer des coudes.
Il faut se faire une petite place, un petit trou là, derrière un grand monsieur. Mais là, c'est triste. C'est vraiment le dernier bateau là.
L'Hermione manœuvre pour faire demi-tour la figure de proue, le lion, en direction de l'océan.
C'est impressionnant. Très impressionnant. C'est une merveille. C'est magnifique, magnifique.
À croire qu'il restait quelques fusées, malgré le feu d'artifice géant de samedi soir.
Ouais.
Maintenant, les sirènes.
C'est trop triste. Ah oui, ah oui. Franchement, oui. Parce que la ville va se retrouver toute solitaire, en fait. C'est vrai. Et voilà, ça y est, ça va y aller.
Et puis les traditionnels coups de canon. Difficile pour les trois femmes de retenir leur émotion.
Non, je ne pleure pas.
Bon, c'est triste, je trouve, de voir partir.
Bon, nous irons à Rochefort l'année prochaine, je te
c'est
promets.
Ça, d'accord.
À Rochefort peut-être l'année prochaine et il n'y a plus qu'à espérer la revoir l'Hermione à Rouen dans quelques années pour la prochaine édition de l'Armada.
Voilà, Sixtine List de France Bleu Normandie, Rouen, au milieu des spectateurs pour ce dernier jour de la grande parade de l'Armada de Rouen. La circulation.
Point route avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale. Conditions sur labanquepostale.fr.
C'est traditionnel, les routes sont chargées pour les retours du week-end. On retrouve Kevin Dufraîche au PC Mobilité. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Effectivement, c'est chargé, surtout pour rentrer vers Paris. C'est assez difficile si vous revenez de Normandie par l'autoroute A13. Il y a une dizaine de kilomètres de bouchons en amont du péage de Mantes-la-Ville. Et il faut encore prendre son mal en patience une fois le péage passé, car il y a eu un accident en hauteur de Flins-sur-Seine. Résultat, 20 minutes de ralentissement supplémentaire pour dépasser cette difficulté. C'est chargé aussi en venant du sud de la capitale par la 6. Vous roulez en accordéon à partir de Vissou. Un mot de la situation aussi autour de Lyon. C'est chargé également 5 km de bouchons sur la 42. Et sur la 6, il vous faut 20 minutes à partir de Dardilly pour entrer dans la ville.
Merci Kevin Dufraîche. Et maintenant, les prévisions météo pour demain.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Nous avons rendez-vous avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Pratiquement que du beau fixe demain sur la totalité du pays, avec tout de même un risque d'averse à signaler l'après-midi sur les Pyrénées et d'orage sur les Alpes frontalières, mais le soleil est souvent très vaillant, va rapidement chasser les bancs de grisaille du début de la matinée et faire place à une ambiance quasi estivale, d'autant plus que les températures vont partout bien remonter, avec une bonne vingtaine de degrés près de la Manche. Le maximum absolu sera de 33 pour les terres provençales. Il est prévu 25 à Rennes et Lille, 27 sur le centre Val-de-Loire, le bassin parisien et l'Alsace, 28 en Rhône-Alpes, 29 sur le Limousin, 30 à 31 sur les Charentes, les rives de la Garonne et dans le golfe du Lion. Et mardi, les valeurs vont globalement afficher 2 à 3 degrés supplémentaires.
Merci Jean-Michel Golinski. Intersport, comme tous les dimanches à cette heure-ci, ce soir avec nous Vincent Pellegrini. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Pierre.
Alors d'abord, la Coupe du Monde féminine de football. Deux rencontres au programme aujourd'hui, et notamment la deuxième sortie des Américaines, tenante du titre.
Oui, alors dans ce groupe, la Suède a facilement disposé de la Thaïlande cet après-midi à Nice 5-1. L'équipe des États-Unis, qui avait surclassé les Thaïlandaises lors de leur premier match 13-0, affronte depuis 18h au Parc des Princes le Chili. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Vincent, dans une grosse ambiance.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de supporters américains et on peut dire que les Américaines déroulent.
Devant 42 500 dans ce Parc des Princes, quasiment plein, et encore un sauvetage de la gardienne chilienne du Paris Saint-Germain, Christiane Endler, qui évite le naufrage. Les Chiliennes sont déjà largement menées, 3-0 encaissés en première période, avec un doublé de la capitaine et star numéro 10, Carly Lloyd. Le troisième but est signé de la tête, Julie Hertz, qui est sans doute l'une des meilleures joueuses de cette deuxième période. Les Américaines déroulent, elles ont un petit peu plus de mal en ce début de seconde période, peut-être parce que les Chiliennes tentent de marquer un but. Ce serait leur premier dans cette Coupe du Monde. Elles ont perdu leur premier match face à la Suède, 2-0. Elles seront éliminées à l'issue de cette rencontre, évidemment en cas de défaite, tout comme la Thaïlande. Les Américaines qui jouent avec une équipe bis, on peut dire, elles sont déjà en train de faire tourner. La coach Jill Ellis n'a pas titularisé ce soir la star Alex Morgan, auteur de 5 buts et 3 passes décisives lors du premier match des Américaines face à la Thaïlande. Megan Rapinoe aussi, l'ailière gauche, est sur le banc de touche, mais ce qui n'empêche pas de cette équipe américaine de mener très largement dans la possession de balle et au score 3-0. Après 60 minutes face au Chili, ici au Parc des Princes, devant un stade quasiment plein.
Merci Guillaume Batin, en direct du Parc des Princes. C'est demain soir à Rennes que les Bleus de Corinne Diacre vont disputer leur troisième et dernier match de poule face au Nigeria. Bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Vincent.
Alors on le rappelle, les Françaises ont déjà leur billet en poche pour les huitièmes de finale. Alors est-ce que la sélectionneuse va en profiter pour faire tourner son effectif et mettre quelques joueuses au repos?
Oui, ménager des joueuses qui, Vincent, ont démarré les deux premiers matchs contre la Corée du Sud et la Norvège, sachant que sur ces deux matchs, Corinne Diacre n'a effectué qu'un seul changement dans son 11 de départ. C'est au poste d'attaquante pour Delphine Cascarino et Valérie Gauvin. Alors, est-ce qu'elle va faire tourner? On lui a bien évidemment posé la question ce midi lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.
Il y aura quelques changements. Maintenant, on va pas changer toute l'équipe non plus. Comme l'objectif, c'est d'aller chercher une troisième victoire, il faut que l'on reste sur la logique qui est la nôtre depuis le début. Donc, il y aura, quelques changements. 1, 2, 3, vous voulez que je vous dise quoi? 4, 5, 6? Non, je vous le dirai pas.
Voilà, Corinne Diacre qui aime rire, vous l'avez remarqué depuis le début de cette Coupe du Monde.
De plus en plus.
Voilà, exactement. Lors des conférences de presse, on peut s'attendre, Vincent, à 3-4 changements pour les Bleus.
Alors, est-ce qu'il y a toujours autant d'effervescence autour de cette équipe de France? Vous l'aviez constaté à Nice, est-ce que c'est pareil à Rennes?
Alors, le Roazhon Park a été l'un des premiers stades à afficher guichet fermé pour un match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Rennes qui n'a pas attendu ce mondial pour apprécier le football au féminin, puisqu'avant le match d'ouverture France-Corée du Sud vendredi dernier, eh bien c'était le Roazhon Park qui détenait le record d'affluence pour un match de l'équipe de France féminine. C'était lors de France-Grèce en juin 2016, 24 000 spectateurs. Et puis, vous le savez Vincent, puisque vous aimez le football féminin, plusieurs Françaises ont été révélées en Bretagne, comme Grijenbok ou Eugénie Le Sommer, qui a été formée à Vannes et révélée à Saint-Brieuc. Elle est forcément touchée de revenir jouer en Bretagne.
Ça fait toujours plaisir, forcément, de revenir sur ces terres.
Ah, j'ai pas l'occasion de revenir souvent, donc quand j'y suis, bah, je suis contente. Bah, un beau chemin parcouru. Beaucoup de clubs, beaucoup de titres. Et puis là, revenir avec l'équipe de France, ça fait toujours plaisir.
Eugénie Le Sommer et les Bleus, Vincent Pellegrini demain soir à Rennes, donc pour leur dernier match de poule dans cette Coupe du Monde.
Merci Cédric Guillot, France-Nigéria, donc demain 21h au Roazhon Park, à la même heure dans ce groupe, la Norvège affrontera la Corée du Sud à Reims.
Intersport suite, Vincent, c'était la répétition générale avant le Tour de France, le critérium du Dauphiné s'est achevé cet après-midi.
Et la dernière étape a vu la victoire du Néerlandais Dylan Van Baarle à Champery en Suisse. Bonsoir Fanny Echevestrier.
Bonsoir Vincent.
Et la victoire finale pour l'un des hommes en forme de la saison, le Danois Jacob Fuglsang.
Oui, à 34 ans, il est en train de réaliser l'une de ses toutes meilleures saisons, vainqueur du Critérium pour la deuxième fois de sa carrière. Il l'avait déjà remporté il y a 2 ans, en 2017, et cette année, eh bien, il avait déjà gagné une classique, Liège-Bastogne-Liège, pas n'importe quelle classique, en mars. Donc voilà, tout au long de la saison, il est présent, Jacob Fuglsang, et il montre, eh bien, qu'il faudra tout simplement compter sur lui dans 3 semaines pour les grands départs du Tour de France. Son meilleur résultat sur un tour, pour l'instant, c'est une 7e place, c'était en 2012. Ça date, mais voilà, Jacob Fuglsang et l'équipe Astana sont en forme et l'ont montré tout au long de la semaine.
Quel bilan peut-on faire des performances des deux Français qui seront les plus ambitieux dans le Tour, Thibaut Pinot et Romain Bardet?
Bah, ils étaient déçus à l'arrivée aujourd'hui. Romain Bardet fait un top 10, pourtant il est 10e exactement, mais il a parlé de mauvais bilan, et c'est vrai qu'il a voulu attaquer, il a essayé tout au long du week-end, mais il n'a pas encore le coup de pédale pour lâcher ses rivaux. Il a dit qu'il allait repartir à l'entraînement et se préparer pour le Tour de France, mais vraiment il était extrêmement frustré. Autre déçu du jour, eh bien c'est Thibaut Pinot, c'est pourtant lui le meilleur Français de ce critérium. Il finit à la 5e place à 33 secondes de Jacob Fuglsang, mais il est déçu en fait lui de ne pas avoir eu une étape de haute montagne pour tenter quelque chose aujourd'hui. Écoutez-le.
C'est frustrant parce que aujourd'hui je vois pas ce qu'on pouvait faire. C'est dommage d'avoir une dernière étape comme ça parce que c'est vraiment très roulant. Je vois pas ce qu'on pouvait faire de plus. Il y avait rien à faire. On savait pas comment s'y prendre et c'est dommage. Après voilà, c'est l'important, c'est aussi d'être bien. C'est sûr, j'aurais préféré faire mieux que 5e général.
J'ai envie de vous dire que si Thibaut Pinot est frustré de cette 5e place, eh ben c'est peut-être plutôt bon signe pour le Tour de France. Il a montré qu'il avait dans ses ambitions et il faudra, c'est sûr, compter sur lui dans 3 semaines. Il faudra également compter, Vincent, sur Julian Alaphilippe. On l'a vu encore tout au long de la semaine aux avant-postes. Il repart avec une victoire d'étape et avec le maillot de meilleur grimpeur. Il ne s'en cache pas, ce sera encore son objectif sur le prochain Tour de France.
Merci Fanny Echevestrier. Départ du Tour de France, on le rappelle, Pierre, le samedi 6 juillet de Bruxelles.
Le rugby, Toulouse en fête cet après-midi pour le retour de ses champions.
Et oui, les rugbymen toulousains ont conquis hier soir au Stade de France le 20e titre de champion de l'histoire du club, un succès 24-18 face à Clermont. Ça faisait 7 ans que les Toulousains n'avaient pas soulevé le bouclier de Brennus. Reportage place du Capitole cet après-midi, Alain Gastal.
Ils ont fait la fête très tard hier soir, les joueurs à Paris, les supporters à Toulouse, mais aucun n'aurait voulu manquer ce rendez-vous, l'arrivée du bus à Impérial sur la place du Capitole avec les joueurs habillés du t-shirt 20 fois champion de France et une foule de supporters qui étaient là pour les admirer, une foule impatiente de revoir son bouclier de Brennus.
Mais ça fait un petit moment qu'on l'attend quand même. Je crois qu'il y a 7-8 ans qu'on n'est pas revenu ici, 7 ans, donc c'est ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais.
Et les joueurs se sont prêtés de bonne grâce au chant des supporters et au clapping, des chants qu'ils ont entonnés avant de montrer le bouclier au balcon du Capitole. Hormis pour Maxime Médard, c'était une première pour tous les joueurs, à commencer par le pilier, le numéro 1, Cyril Baye, très ému.
Aujourd'hui, je pense qu'on se rend un peu plus compte de l'engouement qu'il y a autour de cette équipe. C'est vrai que les anciens joueurs m'en parlaient, on avait tous des étoiles dans les yeux. Ils nous disaient, vous allez voir les gars, si vous y êtes, vous allez voir les sensations, vous en rappellerez toute votre vie. Voilà, il y a des joueurs qui ne sont jamais champions de France dans leur carrière. Et si on veut continuer à progresser, il faudra travailler comme on l'a fait tout au long de cette saison et pas baisser les bras.
Et chacun aura aussi remarqué la discrétion des entraîneurs, autant Régisson qu'Hugo Mola notamment, quasiment invisibles aujourd'hui, voulant laisser toute leur part de gloire et de joie aux joueurs qui ont remporté pour Toulouse ce 20e bouclier.
Voilà, c'est mardi que le sélectionneur du 15 de France, Jacques Brunel, livrera une liste de 36 joueurs retenus pour préparer la Coupe du Monde. Et on peut supposer qu'il y aura beaucoup de joueurs toulousains.
Vincent Pellegrini, nouveau succès de Toyota aux 24 heures du Mans et deuxième victoire d'affilée pour Fernando Alonso.
L'ancien champion du monde du Formule 1 faisait équipe avec le Suisse Sébastien Buemi et le Japonais Kazuki Nakajima. Leur Toyota, la numéro 8, s'est imposée face à une autre Toyota, la numéro 7, au terme d'une fin de course à suspense. Au Mans pour France Inter, Didier Charpin.
Pour Fernando Alonso, le Père Noël est passé le 16 juin. Son équipage était largement distancé par l'autre Toyota, mais le sort s'est vraiment acharné sur les leaders. Deux crevaisons coup sur coup. La voiture de l'Espagnol s'est donc retrouvée en tête à une heure de l'arrivée. Et les victoires inattendues ont vraiment une saveur exceptionnelle, reconnaît Alonso.
Un peu difficile de contrôler l'émotion parce que nous savons avoir toutes les conditions dans la tête de la course, dans l'arrière de la course, deux minutes. Et à la fin, d'avoir la chance, la fortune de gagner la course était incroyable. C'est une mauvaise nouvelle pour la voiture 7. Je pense qu'il mérite de gagner la course.
Officiellement, Fernando Alonso quitte Toyota et le monde de l'endurance. Mais il a glissé, sourire aux lèvres, qu'il aimerait bien revenir au Mans. C'est vrai qu'avec deux victoires en deux courses, il y a de quoi y prendre goût. Au Mans, Didier Charpin, France Bleu Maine pour France Inter.
Premier podium de sa carrière pour le jeune français Fabio Quartararo, 20 ans en MotoGP. Il a terminé deuxième aujourd'hui du Grand Prix de Catalogne derrière l'Espagnol Marc Marquez.
Les Jeux Olympiques de Tokyo débutent demain pour les escrimeurs français.
Oui, ces Jeux Olympiques se dérouleront en août 2020, mais la course à la qualification va s'engager à l'occasion des championnats d'Europe d'escrime qui s'ouvrent demain à Düsseldorf. Les escrimeurs français sont en quête de points pour décrocher leur billet pour Tokyo en individuel et par équipe. Et cela fait bondir le stress et la pression. Écoutez la sabreuse Cécilia Berder, championne du monde par équipe l'an dernier.
Vous faites une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe qualificatif pour les Jeux, l'air dans la salle n'est plus le même. Vraiment, il y a une certaine animosité, là les arbitres sont plus tendus, nous on est plus tendus, en attaque on est un peu moins patient, en défense on est un peu plus brouillon, parce que c'est tendu, parce que le sabre il est plus lourd, le masque est aussi un peu plus lourd, mais c'est encore une fois celle qui sera la plus stratège, la plus malicieuse, qui sera la plus courageuse aussi, qui pourra l'emporter. On a beaucoup parlé avec mon équipe parce que c'est important de mettre des mots quand c'est tendu, de pouvoir se regarder, pouvoir se toucher et être sereine entre nous. On a beaucoup d'ambition et on connaît les clés. Ce sera à nous d'être précises, d'être vigilantes sur beaucoup d'éléments et à partir de là, on pourra vraiment avoir de l'ambition de belles choses.
Voilà Cécilia Berder qui entre en compétition demain dans ces championnats d'Europe dans l'épreuve individuelle de sabre.
Enfin, Vincent, le départ de la troisième étape de la solitaire du Figaro a été donné cet après-midi de Roscoff dans le Finistère.
Oui, c'est Johan Richomme qui est en tête du classement général à mi-course. Cette troisième étape, c'est une boucle avec retour à Roscoff, une boucle dans la Manche avec des passages compliqués autour des côtes anglaises. Michel Desjoyeaux, 9e du classement général, estime que cette solitaire du Figaro reste très ouverte.
Si on voit une hiérarchie se dessiner à l'issue des deux premières étapes, on se rend compte aussi, au vu du parcours de la troisième et des conditions météo qui vont avec, qu'il peut encore se passer beaucoup de choses et que c'est vraiment à Dieppe qu'on aura le classement général et certainement pas à mi-parcours ici à Roscoff. Donc je pense que ceux qui sont devant doivent être contents d'y être, c'est normal, ils ont bien bossé pour et ils ont une certaine réussite, mais qu'il y a encore beaucoup d'opportunités pour tout le monde et qu'il va falloir rester super vigilant et peut-être opportuniste pour ceux qui veulent se refaire. On a déjà vu sur la deuxième étape des retours dans le top 10 de certains qui avaient pris cher sur la première étape.
Le navigateur Michel Desjoyeaux et puis deux rayons de soleil pour le tennis français. Adrien Manarino a remporté cet après-midi le tournoi sur gazon de Sertogenbosch face à l'Australien Jordan Thompson. Victoire aussi pour Caroline Garcia en Angleterre à Nottingham. Elle a battu la Croate Donna Vekic. Tout cela à deux semaines du début du tournoi de Wimbledon.
Vincent Pellegrini a signé ce soir Intersport. Merci Vincent.